porte de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Bienvenue sur les ondes d'O2 Radio, et oui, oui, une nouvelle émission à nouveau avec Dominique Lormier qui est de nouveau parmi nous. Alors aujourd'hui on va parler d'espionnage, vous avez reconnu la musique de Mission Impossible, on va parler d'espionnage, et oui, des espions de 1940 à nos jours sur un livre qui s'appelle comment ce livre ?
Alors le livre, je vais vous donner le titre exact, c'est L'espionnage de 1940 à nos jours, qui est sorti aux éditions Alizio, qu'on peut retrouver en librairie, et il est sorti en 2023.
D'accord, alors ce livre...
En 2022, exactement.
D'accord, ok. Alors voilà. Ce livre parle d'espionnage de quel côté de l'espionnage ? L'espionnage français, alors, l'espionnage russe, l'espionnage...
Quel alors, c'est l'espionnage international, je parle de l'espionnage surtout en Europe, où justement l'espionnage a pris une ampleur considérable, et je à travers des portraits. C'est d'ailleurs, je démarre dans le chapitre 1 avec Ernst Thilo Schmidt, l'espion allemand qui aurait pu nous faire gagner la guerre en 1940. Ernst Thilo Schmidt est né le 13 mai 1988 à Berlin. Il est certainement le plus incroyable espion allemand des Alliés. Et en effet, si le gouvernement et le commandement français avaient pris au sérieux ces révélations, Hitler aurait perdu la guerre dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Au début, il est employé au bureau des chiffres du ministère de l'armée allemande dès les années 1920. Alors, il faut savoir que c'est un fêtard notoire, coureur de jupons invétéré. Il se trouve toujours à court d'argent et il n'hésite pas un instant à trahir son pays pour assouvir ses besoins en tout genre. Surtout après la crise de 1929. Et dès octobre 1931, il rentre en contact avec le capitaine Gustave Bertrand, qui est un officier français des services de renseignement. Et moyennant finance, il lui propose de lui communiquer des renseignements capitaux sur le réarmement clandestin allemand et l'évolution politique. C'est ainsi que trois officiers français, André Perruche, le Guy Schlesler et Paul Payol, établissent des contacts permanents avec l'espion allemand qui fournit des copies des manuels d'instruction, notamment de la fameuse machine Enigma, concentrant les messages secrets des autorités allemandes. Enigma est une machine électromécanique portative servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. Et dès décembre 1932, le capitaine Gustave Bertrand partage les renseignements d'Enigma avec les services secrets polonais, puis ensuite avec les services secrets britanniques. Et c'est ainsi que durant 6 ans, les agents polonais et français déchiffrent de nombreux messages d'Enigma, donc la machine allemande, car ce sont les Polonais et les Français concernés directement par la menace allemande qui les premiers, soit dès 1931 et bien avant les Britanniques, seront préoccupés des intentions des militaires et des politiques allemands. Les politiques et Français ont apporté les bonnes méthodes pour déchiffrer les messages secrets d'Enigma, et sans eux, les Britanniques n'y seraient certainement pas parvenus. Et c'est ainsi que Thilo Schmidt va transmettre des renseignements de la plus haute importance. Malheureusement, la France est traversée par un pacifisme béat qui touche d'ailleurs une bonne partie de la classe politique française de l'époque. Et ils s'endorment un peu sur les lauriers de la victoire de 1918. On ne veut pas croire réellement à la montée du danger allemand, bien qu'on va construire quand même la ligne Maginot pour se défendre. Mais on peut se demander à juste titre pour quelle raison un militaire aussi médiocre se trouve à la tête de l'armée française. Je veux parler du général Gamelin, qui va être à l'origine de la défaite de 1940. En vérité, il a le soutien inconditionnel d'Édouard Daladier, radical socialiste comme lui, qui occupe d'importants postes militaires dès 1924 jusqu'en 1940. Et c'est ainsi que Gamelin va soutenir notamment le projet de la manœuvre d'Ilbreda qui va être catastrophique en mai 1940 puisqu'elle va empêcher la France d'avoir une réserve stratégique qui était la 7e armée du général Giraud qui aurait pu permettre de contre-attaquer la percée des Allemands dans les Ardennes. Et surtout Gamelin ne va pas prendre au sérieux les renseignements fournis par Ernst Illo Schmidt annonçant que l'offensive principale allemande n'aura pas lieu au nord de la Belgique, mais dans les Ardennes, c'est-à-dire plus au sud. Et donc Gamelin ne prendra pas au sérieux ces informations qui auront été transmises par les services spéciaux français et venant justement d'Ernst Stilo Schmidt, si bien que si justement il avait pris au sérieux ces renseignements, il aurait été facile d'écraser les forces allemandes dans les sentiers boisés et je dirais caillouteux et vallonnés de la forêt des Ardennes. On peut imaginer ce qui aurait pu se passer si des bombardiers franco-britanniques, on en avait à peu près 300 à ce moment-là, avaient décollé de nuit pour bombarder la progression des unités allemandes allant vers la Meuse et ensuite pour nous prendre à revers suite à l'avancée des troupes françaises et britanniques en Belgique. Donc Ernst Illo Schmidt a été véritablement, je dirais, un des agents les plus extraordinaires, des agents retournés qui ont travaillé pour les services spéciaux français. Et si malheureusement, il va connaître ensuite un destin funeste, en 1937, Ernst Illo Schmidt quitte le bureau du chiffre et grâce à son frère officier, il accède à des informations capitales qu'il vend au service militaire français du renseignement. Malheureusement, il sera rattrapé par la suite. Il établit des contacts avec les services spéciaux britanniques, mais malheureusement, il va être capturé par les services spéciaux allemands le 27 février 1943. Et sous la torture, il donne des renseignements qui vont causer finalement l'incarcération de nombreux agents allemands travaillant pour les services spéciaux alliés. Sa fille Gisela raconte que son père se serait suicidé le 19 septembre 43 au moyen d'un poison qu'elle lui aurait fait passer en prison à Berlin. Voilà donc une histoire assez incroyable. Il y a une autre histoire que je traite dans le livre, c'est celle du colonel Payol, Paul Payol, qui était l'un des agents secrets français contre Hitler. Il avait été il était pupille de la nation, il est rentré dans l'armée dans les années 20. Et ensuite, il a fait une carrière surtout dans le renseignement militaire. C'est lui qui, justement, avait eu en grande partie les renseignements venant d'Ernst Illo Schmidt. Puis, par la suite, il a travaillé au BMA, au Bureau des menées antinationales, sous le régime de Vichy. Mais en vérité, il avait une double casquette. Il travaillait à la fois pour le régime de Vichy, qui était une couverture. Puis, il travaillait en vérité pour la résistance intérieure. Il avait des contacts avec le réseau de la confrérie Notre-Dame et avec le corps franc-pommiès, et également des contacts aussi avec les services spéciaux anglais. Il était tellement efficace qu'il a été le premier officier français à être prévenu du jour du débarquement en Normandie, puisqu'il a rejoint ensuite, suite à l'invasion de la zone libre, à partir de novembre 1942, il a rejoint Alger, il était en contact avec le général de Gaulle, avec le général Giraud et avec les services spéciaux alliés. Durant l'occupation, il a joué un rôle important aussi dans le démantèlement de certains réseaux allemands qui s'étaient imposés en zone sud, en zone libre. Il a été à l'origine de la mise à mort de 42 espions allemands qui occupaient la zone libre, puisque la France était divisée en deux parties. À partir de fin juin 40, il y avait ce qu'on appelait la zone occupée et la zone dite libre, qui était sous la tutelle du régime de Vichy. Et finalement, les Allemands, à partir de novembre 42, suite à l'occupation de l'Afrique du Nord, ont été amenés a occupé la zone libre. Néanmoins, Payol ensuite a continué à travailler. Il est rentré dans la clandestinité et il a continué à fournir des renseignements précieux aux alliés. Donc il est considéré comme un des agents secrets les plus extraordinaires des services spéciaux français. Il a mené des opérations extrêmement efficaces et il a été un des agents les plus efficaces. Et également, nous avons un grand résistant qui aussi, en tant qu'agent secret de la France libre, un espion également hors norme, qui a été Gilbert Renaud, qui est devenu le colonel Rémy dans la Résistance, qui était à l'origine de la confrérie Notre-Dame, qui a été un des réseaux de renseignement les plus efficaces des alliés de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que Gilbert Renaud était né le 6 août 1904 à Vannes en Bretagne. Il était, je dirais, de tradition proche de l'Action française, c'est-à-dire monarchiste et nationaliste, mais également très germanophobe. Il était très hostile au nazisme, et c'est pour ça qu'il a rejoint le général de Gaulle dès 1940, l'invasion de la France. Il a rejoint Londres sur un navire, dans des conditions assez rocambolesques, et il a rencontré le général de Gaulle et le colonel Passy, Pierre de Varin, qui était le chef des services spéciaux du général de Gaulle à Londres, et il a fondé ensuite, dans le sud-ouest de la France, la confrérie Notre-Dame, puisqu'il est revenu ensuite en France, il a été parachuté, il a été réceptionné par les premiers résistants dans la région. Et il a fondé ce qu'on a appelé la confrérie Notre-Dame, qui était un des réseaux de renseignement les plus importants des alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Il a compté plus de 1600 agents et qui a fourni des renseignements capitaux, notamment puisque la confrérie Notre-Dame était surtout spécialisée dans le renseignement sur toute la façade de la côte atlantique. Et il faut savoir qu'il y a eu une guerre maritime extrêmement dure menée par les Britanniques et ensuite les Américains contre la marine allemande et la marine italienne dans l'Atlantique, puisque c'était une zone hautement stratégique pour ravitailler la Grande-Bretagne qui recevait les matières premières et également ensuite à partir de 1941 avec l'entrée en guerre des États-Unis, du matériel militaire venant des États-Unis, etc. Et les sous-marins allemands menaient bien sûr des opérations pour essayer de détruire tous ces convois qui essayaient de ravitailler la Grande-Bretagne ou également aussi en passant par le détroit de Gibraltar pour aider également les Britanniques implantés en Égypte. Et les réseaux du colonel Rémy qui avaient des antennes sur toute la façade atlantique, il y en avait une très importante qui était à Bordeaux également et qui s'occupait des va-et-vient, de renseigner sur les va-et-vient des sous-marins allemands de la base sous-marine de Bordeaux. Il y avait également aussi des sous-marins italiens puisqu'il y avait 32 sous-marins italiens et 27 sous-marins allemands et le colonel Rémy avait des agents de renseignement qui étaient implantés à l'intérieur de la base. Ils avaient infiltré la base sous-marine et ils étaient au courant de tous les va-et-vient des sous-marins allemands, ce qui a permis à partir de 41, 42, 43 de couler un nombre assez important de sous-marins allemands et permis aux alliés de remporter la bataille de l'Atlantique qui était capitale au niveau stratégique. Et ça a été en grande partie possible grâce au réseau du colonel Rémy. D'ailleurs, Churchill a estimé que le réseau du colonel Rémy avait joué un rôle capital dans, la guerre, la victoire des alliés durant la bataille de l'Atlantique. Il y avait également un autre réseau important qui avait été créé avec les services spéciaux anglais et les résistants français. C'était le réseau Alliance avec Marie-Madeleine Fourcade et qui a été à l'origine et à la création avec un officier de l'armée française de la création de ce réseau, qui était également aussi un réseau de renseignement et un réseau aussi d'évasion qui faisait passer en Espagne un certain nombre de résistants ou de pilotes alliés qui avaient été abattus. Donc c'était un réseau de renseignement très efficace. Il a notamment ordonné toutes les implantations des bunkers, également des troupes allemandes avec le réseau du colonel Rémy, de toutes les installations allemandes sur toute la façade atlantique, qui ont décidé finalement du choix du débarquement en Normandie. C'est grâce aux renseignements fournis par les espions français de la résistance intérieure que les Alliés ont décidé de débarquer en Normandie, où ils ont vu que les défenses allemandes étaient moins importantes, bien sûr, qu'au niveau du Pas-de-Calais, où elles auraient pu se heurter à une défense beaucoup plus dure et faire échouer le débarquement des Alliés en Normandie. C'est donc justement grâce à ces réseaux, ces deux réseaux, le réseau Alliance et le réseau de la confrérie Notre-Dame, grâce au travail d'espionnage mené par ces résistants français de l'intérieur, aidés par également les Britanniques et par les Américains, que le sort de la guerre a pu être changé à l'ouest de l'Europe, puisqu'à l'est, ça a été surtout l'apport déterminant de l'armée soviétique. Donc ça a été possible grâce justement à l'action menée par Marie-Madeleine Fourcade et également le colonel Rémy, ainsi que d'autres agents qui appartenaient à leur renseignement. Alors de l'autre côté, nous avons eu un espion extrêmement redoutable, c'était Jacques de Zoubry, qui était un espion belge et qui a travaillé pour les nazis pendant l'occupation. Il était fervent admirateur d'Adolf Hitler, il était né en 1922 d'un père médecin l'ayant renié et d'une mère ouvrière qui s'occupe peu de lui, donc il aura une enfance livrée à lui-même. Il sera en quête de revanche sociale et il va être recruté par les services nazis qui vont lui verser des ponts d'or qui seront à l'origine, je dirais, de son engagement aux côtés des Allemands. En plus, c'est un nazi convaincu et il va être à l'origine du démantèlement d'un certain nombre de réseaux de la résistance française et belge durant l'occupation. Il avait d'ailleurs, je dirais, une allure assez anodine, ce qui lui permettait de se faufiler un peu partout et de pouvoir infiltrer les différents réseaux de résistance, malheureusement, qui ont été livrés par lui aux Allemands. Il a été à l'origine de l'arrestation, on estime, d'à peu près de 3000 résistants. Finalement, il va se réfugier en Allemagne au moment de la fin de la guerre, mais il sera finalement découvert par les services spéciaux français et finalement fusillé après la guerre, puisqu'il aurait été reconnu comme ayant été un des agents les plus redoutables du national-socialisme, ayant travaillé pour les Allemands. Alors il y a eu des cas aussi, une polémique autour de celle qu'on a appelée Violette Maurice. Alors Violette Maurice, elle était née le 18 avril 1893 à Paris dans le 6e, et elle était une championne olympique hors norme dans différentes disciplines, aussi bien la course à pied que le lancer de javelot et de poids, que dans la lutte également. C'était une championne hors norme. Elle avait été pendant la Première Guerre mondiale, infirmière, et on a estimé que durant l'occupation, elle aurait travaillé pour les services spéciaux allemands. En vérité, on a découvert finalement, elle a été abattue ensuite par la résistance d'ailleurs, mais on a découvert depuis peu, grâce à des archives, qu'effectivement elle avait fait du commerce avec les Allemands au niveau du marché noir, qu'elle avait eu les liens avec des agents de la Gestapo, mais qu'elle n'avait pas eu l'importance qu'on lui a donnée en tant qu'espionne en faveur des nazis. Finalement, elle aurait été victime, je dirais, de malveillance venant de certains résistants qui lui reprochaient sa féminité masculine, et des résistants plus ou moins machistes, si bien qu'elle a fini malheureusement sous les balles. Elle a été prise dans une embuscade au moment de la libération, mais néanmoins il y a eu un certain nombre de documents qui ont attesté qu'elle n'aurait pas été l'espionne que l'on a dit. Voilà. J'ai eu la chance de contacter moi des espionnes et à travers cet ouvrage que j'ai pu côtoyer et interviewer, ça a été le cas d'Alice. Alice qui a été à la fin de l'année 42, elle a rejoint le fameux corps franc-pommiès qui avait été créé dans le sud-ouest de la France par le capitaine André Pommiès, qui était rattaché à l'organisation de résistance de l'armée, et ça a été également un des mouvements de la résistance les plus importants, puisqu'il a regroupé entre 9000 et 12000 hommes au moment de la libération. André Pommiès, lui, était rentré dans les services de renseignement de l'armée, c'était un officier de Saint-Cyr, et il avait utilisé un certain nombre de femmes durant l'occupation pour infiltrer les services administratifs allemands. C'est ainsi que de nombreux maquis ont pu être prévenus à temps, grâce notamment à une personne comme Alice, qui elle est rentrée, donc qui était née en 1920, dans une famille de la bourgeoisie catholique de Tarbes, et elle a donc 23 ans lorsqu'elle se lance dans l'aventure de la résistance en 1943. Elle avait commencé des études d'histoire, puis elle a rejoint ensuite finalement le corps franc-pommiers, donc, et elle a infiltré notamment les mouvements de Jacques Doriot à Toulouse, le Parti populaire français. Donc elle a pu donner les noms de collabos français qui travaillaient dans la région de la Haute-Garonne. Elle a également elle a eu une aventure sentimentale avec un officier de la Gestapo de Toulouse, si bien qu'elle a pu avoir des renseignements précis sur la Gestapo à Toulouse. Elle a pu fournir des renseignements notamment au commandant Morange, qui était un des importants agents de renseignement de la résistance intérieure. Et elle a même été également engagée dans des opérations d'élimination d'agents ennemis. Elle avait pratiqué la lutte gréco-romaine, elle pratiquait la lutte, c'était une femme assez sportive, et notamment, elle a notamment été à un moment donné poursuivie par un agent de la Gestapo, notamment dans le sud-ouest. Elle lui a tendu un piège, elle a réussi à le prendre par derrière, elle lui a fait une clé de bras où elle lui a brisé la nuque, et elle a pu finalement éviter que certains maquis soient infiltrés par des agents allemands. Donc c'était vraiment une femme assez extraordinaire qui avait pratiqué les arts martiaux et qui savait donc véritablement mener à la fois des opérations de renseignement et des opérations d'exécution contre des agents ennemis. Alors du côté allemand, il y a eu également Reinhard Gehlen, qui était un agent qui a travaillé pour les Allemands et qui a finalement été retourné ensuite après la guerre par les services spéciaux alliés, puisque il avait travaillé d'abord, il avait donné des renseignements assez précis sur l'importance de l'armée rouge. Et heureusement pour nous, Hitler n'a pas voulu prendre au sérieux les renseignements qu'il avait donnés, puisqu'il avait donné les renseignements allemands avaient prévu qu'à peu près à la veille de l'invasion de l'Union soviétique, en juin 1941, l'armée soviétique était forte de 180 divisions. En vérité, Gehlen avait vu, puisqu'il avait infiltré un certain nombre de réseaux soviétiques, il avait réussi à savoir que le nombre exact des divisions soviétiques, en vérité, elles se montaient à plus de 500 divisions. Donc les Allemands étaient dans une totale sous-estimation de l'importance réelle de l'armée soviétique, puisqu'il est chiffré à 180 divisions. Gehlen avait donné les renseignements exacts, mais les officiers allemands n'ont pas vu prendre au sérieux ces renseignements. Ils estimaient qu'après les purges de Staline dans les années 30, l'armée soviétique, l'armée rouge était très affaiblie, d'autant plus qu'elle avait médiocrement combattu contre la Finlande en 1939, où ils avaient subi de nombreux revers militaires. Donc, heureusement pour nous, pour les alliés, les renseignements fournis par Gehlen n'ont pas été pris au sérieux par le haut commandement allemand, si bien que lorsqu'Hitler est arrivé devant Moscou, les troupes soviétiques avaient encore des réserves très importantes. En plus, l'hiver était tombé d'une manière précoce à partir déjà d'octobre 41. Les unités allemandes ont été embourbées également. Elles ont progressé après qu'elles avaient connu une progression spectaculaire durant l'été 41. Elles sont arrivées aux portes de Moscou sous un froid polaire. Et finalement, elles se sont heurtées à une contre-attaque de l'armée rouge, puisque les troupes de l'armée rouge avaient des réserves beaucoup plus importantes que celles qu'avaient annoncées les services de renseignement allemands. Et Gehlen, lui, avait donné les bons renseignements, mais il n'a pas été pris au sérieux. Et puis, fin avril 1945, il a rejoint le camp des Alliés, parce qu'on a été déjà dans l'optique de la guerre froide, avec la peur, d'une invasion de l'Europe de l'Ouest par Staline, au moment où il y a eu le partage de l'Europe en deux, c'est-à-dire l'Europe de l'Est sous la houlette soviétique et l'Europe de l'Ouest sous la houlette américaine. Finalement, Gehlen a rejoint, il a travaillé ensuite pour les services de renseignement alliés et il est mort après, par la suite, mais il avait fourni des renseignements assez efficaces et il est décédé le 8 juin 1979 à Bergen en Allemagne, après avoir travaillé ensuite pour les services spéciaux alliés.
Alors,
il y a eu le cas également.
Dominique, on va faire une pause musicale.
Oui. Et puis on reprend ensuite.
On est bien parti dans l'espionnage et c'est vrai que c'est assez passionnant. Et on va faire une pause musicale. On fait une pause musicale pour nos auditeurs. Et puis voilà. On se retrouve. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir dans la suite ? On va voir l'espionnage.
Et on va voir Richard Sorge, l'espion soviétique. Ah. Richard Sorge, qui a été un des espions soviétiques les plus extraordinaires. Et on va voir de nouveau, comme ça a été pour le cas pour du côté français et allemand, on n'a pas pris suffisamment au sérieux ses renseignements, alors qu'il avait annoncé l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Il avait annoncé à Staline, mais Staline n'a pas voulu le prendre au sérieux à ce moment-là.
Est-ce qu'on voit
Donc on va en parler par la suite.
Est-ce qu'on voit l'espionnage de nos jours ou pas ?
Oui, on va parler de l'espionnage de nos jours aussi.
Bon,
voilà.
D'accord. Bon, bah, très bien. Allez, on fait une pause musicale et
on progresse rapidement.
Allez, on fait une pause musicale.
Bombes et de Russie, de vodka je t'écris ces mots transis, ces mots d'ici. Ivanovna, je n'ai que toi. Secret d'état.
Alors, on se retrouve après cette pause musicale sur une musique d'espionnage, bien sûr, puisqu'on est dans le thème de l'espionnage. Et on retrouve Dominique Lormier qui est avec nous sur l'antenne de radio et on parle d'espionnage aujourd'hui. Et oui, on parle d'espionnage sur un ouvrage qu'il a écrit, qui s'appelle comment ? Rappelez-nous votre ouvrage, Dominique.
Alors, l'espionnage de 1940 à nos jours, aux éditions Alizio. Il est sorti donc en 2022 et on peut le retrouver en librairie sans problème ou le commander sur Internet.
Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la suite de l'émission ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
Alors, on peut parler de Richard Sorge, qui a été un espion soviétique absolument extraordinaire. Il a fourni des renseignements. C'est lui qui avait renseigné Staline sur le fait que l'Allemagne allait envahir l'Union soviétique en juin 41. Et malheureusement, Staline n'a pas voulu le prendre au sérieux. Il a été mis de côté, en quelque sorte, mis au rebut, alors que les renseignements étaient assez précis. Et si Staline avait été prévenu, il avait pris au sérieux, justement, les renseignements fournis par Richard Sorge, il aurait pu éviter l'invasion d'un quart du territoire soviétique qui a malheureusement eu lieu durant l'été 1941 et qui a entraîné une guerre qui a perduré jusqu'en 1945. Si ça avait été pris au sérieux par l'armée soviétique, ils auraient pu prendre des mesures défensives beaucoup plus solides que celles qui avaient été prises durant l'été 41 et éventuellement contrer, je dirais, l'offensive allemande qui a eu lieu à ce moment-là. Donc voilà, une fois de plus, un espion qui avait fourni des renseignements capitaux et qu'on n'a pas voulu prendre au sérieux. Ensuite, on peut enchaîner sur les services secrets, les barbouzes, l'OAS et le FLN. C'est durant, on avance, je dirais, dans les dates, là, avec la guerre d'Algérie. Alors la guerre d'Algérie démarre justement du fait de la présence française en Algérie. Donc il y avait bien entendu une opposition fomentée par le Front de Libération Nationale. Qui étaient les indépendantistes algériens, et il y a eu une guerre d'espionnage assez importante entre les Français qui étaient installés en Algérie, qu'on appelait les Pieds Noirs, mais également aussi avec la France métropolitaine, et le FLN, où il y a eu une guerre des services secrets, donc menée d'un côté comme de l'autre, et également aussi à partir de la démission du général de Gaulle, finalement, malgré ses promesses d'abandonner l'Algérie française, avec la montée de l'organisation de l'armée secrète qui a été le FLN. Et le FLN a mené également une guerre d'espionnage, et il y a eu une contre-attaque menée par les services gaullistes qu'on a appelé les barbouzes, également qui sont devenus célèbres avec un film célèbre avec Lino Ventura et d'autres acteurs, qui raconte justement l'aventure des barbouzes, qui étaient ces agents des services secrets du général de Gaulle, qui menaient des opérations d'espionnage et d'élimination d'agents ennemis, alors aussi bien du côté du FLN que du côté de l'OAS. Donc là, on était véritablement en pleine guerre d'espionnage. Ensuite, suite à l'indépendance d'un certain nombre de pays africains, il y a eu cet espion célèbre qui était Jacques Foccart, avec ce qu'on a appelé la France-Afrique. C'est-à-dire où il y avait des rivalités, c'est-à-dire la France était officiellement retirée de l'Afrique. En vérité, il y avait toujours des bases militaires en Afrique et il y avait une sorte, je dirais, de néocolonialisme, entre guillemets, avec toujours une présence française extrêmement forte dans le cadre de la guerre froide, c'est-à-dire contre, je dirais, les Cubains et les Soviétiques qui voulaient mener des opérations, bien entendu, contre la présence française en Afrique. Donc il y a eu une guerre d'espionnage à ce niveau-là entre les services secrets français et les services venant de l'Europe de l'Est. De même qu'il y en avait une également en Europe, puisque l'Europe était coupée en deux. Il y avait d'un côté le pacte de l'Atlantique, l'OTAN, l'Europe de l'Ouest, et de l'autre côté, avec le rideau de fer, il y avait l'Union, le pacte de Varsovie, sous la houlette de l'Union soviétique. Le général de Gaulle, qui était arrivé au pouvoir en 1958, était dans une position d'indépendance nationale. Il a doté la France de la dissuasion nucléaire, permettant de faire partie des quatre grandes puissances qui avaient l'arme nucléaire à cette époque-là, et permettant à la France également mener des opérations d'espionnage qui ont été extrêmement importantes. Et il y a eu également ce qu'on appelait les mercenaires. Et il y en a eu un célèbre qui était né dans le Médoc, qui était Bob Denard, qui a mené pour les services français des opérations de mercenaires en Afrique contre les Cubains et d'autres services ennemis qui fomentaient des coups d'État en Afrique pour renverser des présidents africains qui étaient alliés à la France. Donc il a mené des opérations à ce niveau-là. Berlin a été une capitale mondiale de l'espionnage. Il y a eu des opérations d'espionnage menées véritablement aussi bien par les espions soviétiques que par les alliés de l'Ouest. Ça a été une guerre sans fin qui a vu néanmoins sa fin après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique et la fin du pacte de Varsovie. Néanmoins, on a connu une période de guerre froide, véritablement, d'espions. Il y avait pas mal d'espions qui travaillaient en France, d'espions qui travaillaient pour les services secrets soviétiques et une guerre de contre-espionnage menée par les services secrets français. Et là, on arrive à la fameuse affaire Vetrov, qui est certainement... Vetrov étant un agent du KGB qui travaille à Paris et qui va être retourné par les services secrets français. Et cet agent Vetrov va finalement donner aux services secrets français l'implantation de tous les services secrets soviétiques en Europe, qui vont permettre une arrestation massive de tous ces agents et qui va être à l'origine de l'écroulement du système soviétique. Ce sont les services secrets français, donc dans les années 70 et 80, qui vont être à l'origine du démantèlement grâce à la direction de la sécurité du territoire, la DST, et justement avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, les Américains sont très inquiets de l'arrivée de ministres soviétiques au sein du gouvernement français. Mitterrand va très vite les rassurer puisque c'est lui qui va fournir aux Américains les renseignements qui ont été fournis par Vetrov. Et là, ça va être la stupeur totale auprès des Américains qui vont se rendre compte que les services secrets français ont mis la main sur de véritables perles au niveau du renseignement puisqu'ils ont l'installation des services secrets soviétiques en Occident qui menaient des opérations d'espionnage et qui vont permettre la fermeture d'un certain nombre d'ambassades et de consulats soviétiques qui étaient directement des nids d'espions. Donc ça a été une des affaires les plus extraordinaires de cette période. Il y a eu également, bien entendu, de nos jours, des opérations d'espionnage, hein, notamment la lutte qui sont menées par les services de contre-espionnage français, mais également par les services de la police française contre les réseaux islamistes, puisqu'il y a eu un certain nombre d'attentats en France qui ont eu lieu depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et donc on a pu déjouer un certain nombre, justement, d'attentats grâce à ces services qui ont infiltré des réseaux islamistes qui voulaient mener des sabotages. Et il y a eu également aussi des opérations qui ont été menées par les services soviétiques. Il y a eu notamment Anna Chapman qui était une espionne de Poutine et qui a mené des opérations notamment du côté de l'Angleterre. Elle a finalement été découverte et finalement elle a été échangée contre un agent britannique qui avait été arrêté. Et elle est posée nue dans des revues pornographiques, elle était également mannequin et elle était connue de tout le milieu de Londres. Donc elle avait une double casquette, c'est-à-dire à la fois la mondaine qui s'exposait et par derrière l'espionnage qu'elle avait pu mener d'une manière relativement efficace. Voilà, donc et puis aujourd'hui la Chine, bien entendu, qui est une plateforme de l'espionnage, qui engage souvent d'ailleurs des femmes, de véritables Amazones qui mènent des opérations d'espionnage un petit peu partout en Europe, et elles sont souvent également très efficaces à ce niveau-là. Alors en France, heureusement, nous avons des services relativement efficaces, que ce soit avec la DGSI et également les services de renseignement extérieur et intérieur, qui ont pu déjouer un certain nombre d'attentats, d'actions qui ont été menées. Il y a également au sein de l'armée, je dirais, le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est d'ailleurs implanté à Souges, près de Bordeaux, qui mène des opérations d'espionnage, des opérations des services secrets un peu partout, à différents échelons dans le cadre de l'armée. Notamment, ils ont des opérations souvent de reconnaissance en territoire ennemi, c'est-à-dire ils sont parachutés à l'intérieur des lignes ennemies pour mener des opérations de renseignement. Donc eux aussi font de l'espionnage à leur manière. Il y a également d'autres services, bien sûr. Il y a les services italiens militaires, le CIM, qui ont mené des opérations extrêmement efficaces. J'avais connu une certaine Clara qui travaillait pour les services secrets italiens et qui, durant la guerre froide, a mené des opérations. Elle a même éliminé aussi des agents ennemis parce qu'elle était experte en arts martiaux. Elle pratiquait le judo, également la boxe, et elle a éliminé un certain nombre d'espions qui avaient infiltré certaines facultés italiennes ou même, je dirais, des hommes politiques italiens. Puisque l'Italie, durant la période de la guerre froide, représentait le flanc sud de l'OTAN. Ils avaient un rôle important au sein de l'OTAN. Et justement, cette Clara a mené des opérations, je dirais, hors normes. Il y a eu également une Suzanne, une espionne anglaise que j'ai eu le plaisir d'interroger et qui a mené des opérations d'espionnage, notamment à Berlin, qui était une des plaques tournantes de l'espionnage. Et il y a eu également aussi, en Afrique aussi, une Sénégalaise que j'ai eu la chance d'interviewer, qui travaillait pour les services de renseignement français et qui avait éliminé dans un train en Autriche un agent soviétique qui était amoureux d'elle. Et qu'elle avait finalement étranglé dans le wagon. Elle était également experte en arts martiaux. C'était une véritable Amazone que j'ai eu le plaisir d'interviewer et qui avait infiltré un certain nombre de réseaux adverses, justement parce qu'elle parlait plusieurs langues et qu'elle était extrêmement efficace au niveau du renseignement, mais également au niveau de la séduction, parce que c'est toujours une très belle femme et qui a mené des opérations, je dirais, très efficace derrière le rideau de fer, mais également du côté de l'Ouest pour éliminer des agents ennemis. Il y a eu également, des officiers français que j'ai côtoyés. J'en connais un d'ailleurs, je ne donnerai pas son nom, mais qui a été en activité pendant très longtemps et qui a participé à la lutte contre l'ETA, c'est-à-dire l'organisation basque qui menait des sabotages à la fois en France, en territoire du côté de la partie française du Pays Basque, mais également en Espagne, donc il travaillait aussi avec les services espagnols, et il a mené des opérations. Il a également été nageur de combat au sein de la Marine nationale et au sein du SDES, des services de renseignement français, et ensuite la DGSI, et puis il a mené donc des opérations de sabotage de navires espions qui se trouvaient au large de différentes côtes. Donc il avait été formé par les nageurs de combat. Il avait démarré une carrière de militaire à Saint-Cyr et ensuite dans la cavalerie, dans les chars de combat, puis a rejoint ensuite les services de renseignement où il a fait une brillante carrière durant pas mal d'années. Voilà, et donc on peut conclure justement sur cet exemple de cet officier français que j'ai eu la chance de côtoyer durant de nombreuses années et qui a été un officier exemplaire des services de renseignement français. Il y a du côté américain également, bien sûr, le FBI qui lui espionne un peu partout dans le monde entier, qui a été à l'origine d'un certain nombre d'opérations d'intoxication et qui ont mené des opérations aussi assez efficaces. Ils ont également infiltré un certain nombre d'hommes politiques français qui ont travaillé également pour les Américains et ainsi de suite. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, je suis tenu par le secret à ce niveau-là. Mais néanmoins, il y a eu un certain nombre d'activités qui ont été menées aussi par le FBI. Et Julien Assange, d'ailleurs, avait démontré, l'importance des renseignements qui avaient été fournis par le FBI aux États-Unis et qui ont été à l'origine également d'espionnage à grande échelle au niveau de l'Europe. Voilà, en guise de conclusion, ce que je peux dire. Et donc, j'invite les lecteurs à lire, à découvrir mon ouvrage.
D'accord. Alors, en termes d'espionnage, quel est le pays qui détient la palme d'or de l'espionnage en termes de réussite, c'est plutôt la Russie, c'est plutôt la France, c'est plutôt les États-Unis, parce que je sais que...
Les différents pays là que vous avez cités détiennent la palme d'or. Bon, il y a l'État d'Israël également avec le Mossad, ce sont des services extrêmement efficaces, donc extrêmement rodés et qui ont des renseignements pratiquement dans le monde entier. Hein. Le Mossad est très efficace aussi. Il y a bien sûr la Russie, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui sont, je dirais, parmi les sommets au niveau du renseignement. C'est-à-dire, donc, j'ai cité l'Israël, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Les Italiens ne sont pas trop mauvais non plus. Hein. Ils ont eu des agents efficaces hein, qui ont commandé des opérations. Même durant la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets italiens avaient réussi à déchiffrer le codage des services, des opérations militaires anglaises du futur. Jusqu'en 1943, ils ont pu fournir aux Allemands des renseignements très précis sur les déplacements des troupes britanniques en Afrique du Nord. Puisque des espions italiens avaient infiltré les services spéciaux anglais et ils avaient réussi à déchiffrer les messages codés. Donc c'est ainsi que Rommel a remporté de nombreux succès militaires jusqu'en 1943 grâce aux services spéciaux italiens également. Donc il ne faut pas les négliger non plus, ils ont été efficaces aussi.
D'accord. Voilà. D'accord. Très intéressant, très belle émission, effectivement. Dominique, merci beaucoup de ce beau témoignage de votre livre sur l'espionnage. La prochaine émission avec Dominique, ce sera sur la guerre d'Algérie, d'accord ?
Absolument.
Voilà, ce sera la prochaine émission. Donc,
voilà, le 22 décembre à 14h.
Voilà, soyez à l'écoute.
Sur les vérités cachées de la guerre d'Algérie.
Voilà, à l'écoute parce que...
Histoire secrète de la guerre d'Algérie.
Voilà, d'accord. Alors, soyez à l'écoute parce qu'on aura une belle émission aussi. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté, merci à Dominique d'abord, merci beaucoup à Dominique.
Eh ben merci à vous également, et puis merci aux personnes qui m'écoutent, c'est toujours avec un immense plaisir.
Voilà, merci beaucoup. Surveillez bien sur les ondes de radio, surveillez bien sur la page Facebook, surveillez bien pour savoir quelle sera la prochaine émission. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir Dominique.
Au revoir Serge, à bientôt.
Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.